Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous enregistrons aujourd'hui mardi dans l'Ain, à Toisset, à 18h30. Et demain mercredi, en Saône-et-Loire, à Uchizy, à 18h30 également. À très bientôt, en public.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Et il paraît que c'est l'heure de Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis. Eh oui.
Bonjour, monsieur Daniel Mermet. Bonjour, les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Je m'appelle Yves. Je vous appelle de Saint-Pierre de la Martinique. J'ai juste une question que beaucoup de personnes doivent se poser. Qu'est devenue la 330 qu'avait fait aménager spécialement M. Sarkozy? Est-ce que M. Hollande l'utilise? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Beaucoup de personnes l'attendent. Au revoir, M. Daniel Mermet. Au revoir, les auditeurs de Là-bas si j'y suis.
Notre gouvernement, face au capital, il capitule. Et c'est pour cela qu'il nous... À vous de trouver la rime. Face à cet état de fait, dites non à l'austérité. Joignez-vous aux manifs organisées dans toute l'Europe le 14 novembre. Dans notre petit village de Dieulfi, dans la Drôme, ce sera à 18h place du Temple. Munissez-vous de bougies, de lampes à pétrole et de tout ce qui brille pour éclairer nos dirigeants. C'était Serge de Dieulfi.
Salut Daniel, excellente ton émission du vendredi 9. Avec les témoignages du pilote de ligne et de l'élu de Bouguenay, j'en ai appris bien plus en un quart d'heure que pendant plus de 10 ans avec les médias régionaux, mange-merde d'Héros sans doute. Et je terminerai par le même fond sonore. Au marché de Notre-Dame-des-Landes, à propos des futurs avions, quelques douzaines de gaillardes se crépètent un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les cognes mal inspirées vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Allez, salut!
Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon frère vient de bénéficier d'un rein issu d'un don. Grâce à la famille du donneur, il va enfin pouvoir retrouver une vie quasi normale. J'ai une pensée pour cette famille et j'aimerais que ce genre de choses se produisent plus souvent et que chacun puisse y réfléchir. Merci.
La hiérarchisation des événements par les médias, voilà peut-être le pire des conditionnements. Mais les médias eux-mêmes, ils ne le font pas volontairement. Il n'y a pas de complot. Hein. C'est parce que s'ils sont à cette place, c'est qu'eux-mêmes, ils sont entrés dans ce jeu où ils pensaient que ce qui compte, ce sont c'est le destin des grands hommes d'affaires ou les expériences qui battent des records, comme le Vendée Globe ou comme l'autre, là, qui, il y a quelques jours, a franchi le mur du son en sautant d'un avion à 20 km. Il a repris les travaux du professeur Pinochet qui n'avait pas réussi à faire franchir le mur du son aux gens qui faisaient sauter les avions parce qu'il n'avait pas compris une chose, il fallait partir de très très haut. Il ne montait pas assez haut les avions de Pinochet. Pour faire franchir le mur du son à un individu, il faut le lâcher d'un avion, mais de très très haut et sans parachute. Et enfin, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, en fait, sur les travaux du professeur Pinochet. Si ça se trouve, il avait déjà réussi, lui, à faire franchir le mur du son à des individus. Et comme les médias réussissent régulièrement à faire franchir le mur de la connerie aux auditeurs.
Oui, c'est suite au passage intempestif là, de Claude, là, qui dit d'ailleurs jamais bonjour aux AMG, qui parle à Daniel, il dit Daniel, si c'est des conversations entre lui et Daniel, parlez-vous par téléphone, et puis nous, on a le droit de ne pas entendre Claude tous les jours. C'est ton chouchou, mais c'est ton émission, mais c'est pas ta radio, c'est du service public, on a le droit de ne pas écouter Claude tous les jours, s'il vous plaît.
Salut, c'était une très bonne et très saine lecture que
la mort de l'élite progressiste par Chris Hedge, sur la prostitution de nombre d'intellectuels et artistes auprès du pouvoir et de la finance aux États-Unis, mais bon, ça existe aussi chez nous. Et bon, j'avoue que j'ai eu une petite peur pendant un moment, c'est que j'arrivais à la moitié du bouquin, il n'y avait toujours rien sur Howard Zinn, et puis hop, fallait passer les 200 pages pour avoir 4 belles pages sur cet homme qui a donné toute sa vie à la militance aux États-Unis. Et du coup, bah, ça serait bien que les gens puissent se plonger ou se replonger également dans son livre « L'impossible neutralité » qui est encore disponible et où il y a des pages assez fabuleuses, notamment sur son rapport à l'univers carcéral qu'il a combattu très longtemps. Et voilà, donc merci pour les conseils de lecture et à très bientôt. C'était Yoann de Perros-Guirec.
Merci Yoann de Perros-Guirec et bravo de lire Chris Hedges. Effectivement, un bouquin formidable dont j'ai parlé à plusieurs reprises et que je vous invite à lire et à méditer. Alors, un petit coup de jalousie là, hein, sur Claude. Claude, c'est le chouchou. Vous êtes formidable. Merci, chers auditeurs. Une question. Qui a prononcé la phrase suivante ? Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà, tic, 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 c'est, eh oui, Robespierre lui-même qui a prononcé cette phrase dans le projet de déclaration des droits de l'homme. On va évoquer Robespierre, on va évoquer Danton, on va évoquer les révolutionnaires, on va parler aujourd'hui de la Révolution française avec Éric Cazan. Éric Cazan, vous le connaissez, écrivain, éditeur de sa maison d'édition, c'est La Fabrique, c'est un ami régulier de la base où j'y suis. Mais alors là, il s'est fait 3 ans de travail sur la Révolution française. Il avait envie de re-raconter cette Révolution française. Quand on dit une seule solution, la Révolution, bon, ça suscite un petit sourire. Le vieux slogan n'a plus guère de sens. Aujourd'hui, la Révolution, c'est une page d'histoire qui dit plus grand-chose. Et pourtant, c'est de la Révolution de 1789, la nôtre, que proviennent la plupart de nos concepts politiques, de nos valeurs, de nos systèmes de gouvernement. Les différentes interprétations de la Révolution française ont nourri les affrontements politiques, pas seulement chez nous, dans le monde entier depuis cette date. Sauf que chez nous, depuis une trentaine d'années environ, il y a un certain nombre d'historiens qui se sont baptisés d'ailleurs eux-mêmes révisionnistes, qui ont donné de la Révolution une interprétation tout à fait négative en disant la Révolution française a mené au meurtre, à Thermidor, à la destruction, au sang, à la guillotine, etc. Et d'ailleurs, toutes les révolutions mènent à la violence, à la destruction, au drame et au goulag. Donc la Révolution n'ont plus d'importance, n'ont plus de valeur. Oublions, les choses auraient évolué sans, comme elles ont évolué sans cette Révolution. C'est à peu près la théorie qui l'a emporté et qui domine aujourd'hui dans les esprits, qu'on en soit ou non conscient. C'est une des raisons qui a donné à Éric Cazan l'envie de revenir, de renouer avec les grandes analyses sur la Révolution, les grands débats autour de la Révolution française. Il y en a eu d'innombrables entre le lendemain, la prise de la Bastille, jusqu'à donc il y a une vingtaine d'années. Vous vous souvenez qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps Eric Hobsbawm. On a rediffusé une émission qu'on avait enregistré avec lui avant sa mort, le grand écrivain et surtout historien britannique, qui lui aussi faisait de la Révolution un objet historique extrêmement important et toujours capable de nous donner du grain à moudre, disons, et une grille de lecture sur notre présent comme sur notre histoire récente. Voilà, vous avez compris, aujourd'hui, on passe cette heure avec Éric Cazan, une histoire de la Révolution française. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, en rapport avec tes émissions sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'habite à peine à 100 km de là, dans une ville moyenne qui s'appelle Vannes, dans le Morbihan. En 2008, le maire et l'équipe municipale annoncent aux Vannetais qu'ils vont faire un petit tunnel pour passer sous le port. Coût de l'opération, 23 millions d'euros. Sauf qu'en 2012, le contrat est signé, mais en 4 ans de temps, le devis a été multiplié par plus de 3 fois. Et le contrat est signé avec une entreprise privée pour 76 millions d'euros. En 4 ans, on passe de 23 millions d'annonces à 76 millions réels. Oui, je sais Daniel, tu te demandes quel est le rapport entre ce petit tunnel et l'aéroport de Nantes, le futur Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, le maire et l'équipe municipale de Vannes ont signé avec la société Vinci. Ben voyons.
Très curieux cette société où l'extrême gauche est devenue, non pas que j'y ai des accointances, loin de là, c'est pas du tout le cas, mais quand même, que l'extrême gauche soit la peste absolue, et que l'extrême droite, tranquillement, vient s'installer au cœur de la démocratie, en toute quiétude, sans aucun problème, et acceptée par la droite, qui l'accueille gentiment, qui lui déroule le tapis.
Cuticule, monticule, édicule, canicule, follicule, tubercule, opercule, renoncule, tentacule, vésicule, opuscule, matricule, gesticule, articule, clavicule, opuscule, particule, pédicule, fascicule, mes belles rimes en cul comme je vous adule. C'était le poète Ridicule. Salut.
Révolution, ça veut dire révolution. C'est révolution, ça veut dire tourner.
Le grand chantier qui a été ouvert à l'époque, c'est le chantier de l'égalité. Robespierre disait le vrai fondement de la République, c'est l'égalité. Ce chantier n'a jamais été refermé. C'est celui-là qui est encore béant, encore tout à fait en activité, en ébullition aujourd'hui, c'est le chantier de l'égalité. Parce qu'on dit, la Déclaration des droits de l'homme de 89, tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. Égaux en droit, ça veut dire politiquement égaux, mais l'égalité des conditions, elle n'est pas du tout réalisée. L'émancipation politique, c'est une chose, mais l'émancipation humaine, c'est autre chose qui n'est pas du tout réalisée. Même si aujourd'hui, en principe, tous les Français sont égaux devant la loi.
Révolution, c'est révolution, ça veut dire révolution, c'est le silence.
En avant, à mort celui qui n'a pas trou à sa lèche.
À mort celui qui sait lire et écrire.
À mort celui qui émigre.
À mort.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Éric Cazan. Une seule solution, la révolution.
Au moment où la révolution se déclenche, les grands sont tous morts. Rousseau, Voltaire, Helvétius, D'Holbach, ça sont morts, Diderot. Tous nos amis de cette époque-là n'existent plus. Alors, les révolutionnaires, disons ceux qu'on connaît, les grands noms, Robespierre, Saint-Just, Danton, tous ces gens-là avaient lu, étaient absolument imprégnés de cette philosophie. Mais de façon variable, Robespierre, rousseauiste, c'est-à-dire pas matérialiste. C'est-à-dire qu'il détestait, par exemple, Helvétius. Il y avait au comité de sûreté générale, il y avait deux grands comités pendant la Révolution, il y avait le comité de salut public, comité de sûreté générale, qui était plutôt chargé des affaires de police, et dans lequel il y avait beaucoup d'athées. De gens pour qui l'être suprême, tout ça, c'était quand même des calambredaines. Donc, ces athées-là, ils n'étaient pas du tout rousseauistes, ils n'étaient pas du tout déistes. Et pour eux, l'être suprême, c'était vraiment quelque chose d'inacceptable.
Voilà. La conversation a commencé. Une seule solution, la révolution. Vous connaissez peut-être, pas tous d'ailleurs, ce slogan, un peu oublié pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette volonté d'oublier la révolution, de tourner cette page, qui est une idée idéologique, bien sûr, et qui a accompagné la révolution conservatrice néolibérale qui triomphe aujourd'hui. Qui triomphe relativement aujourd'hui parce que face quand même à certains désastres, face à certaines souffrances, l'idée tenace d'une nouvelle rupture s'éprouve, se manifeste ça et là. Comment rompre, comment établir une rupture sans le chaos? Eh bien, cette question, elle est inspirée par la Révolution française, qui a connu cette rupture historique et qui a engendré toute une série d'acquis dont nous n'avons même plus la claire conscience, mais qui a aussi entraîné du chaos, beaucoup de chaos. Et ces quelques années extraordinairement incandescentes, riches, exaltées, exaltantes, inspirées par les intellectuels et les penseurs, les philosophes qu'on vient d'évoquer, ont nourri l'imaginaire politique pendant des décennies, des siècles. Chez nous, en France, mais aussi partout dans le monde. Vous vous souvenez peut-être comme lorsque nous étions à Honduras, on nous avait trahi l'hymne du Honduras, où il était question de Danton et de la mort de Danton, qui figure dans l'hymne même du Honduras. C'est dire la portée de cette révolution, dont se sont inspirés aussi bien les gens de gauche, d'extrême gauche, du centre, les libéraux et même certains dictateurs, il faut bien le dire. Une révolution, pourquoi une révolution serait-elle nécessairement progressiste? Les révolutions ne sont pas toutes, quand elles sont à droite ou à l'extrême droite, des réactions. Il arrive aussi qu'elles soient des révolutions. Voilà des thèmes auxquels on ne songe plus beaucoup, pour les raisons que j'indiquais, c'est-à-dire ces historiens qui se sont employés au cours de ces 30 dernières années à faire de la révolution un monstre, un épouvantail qu'il fallait chasser hors de nos vues et de nos cœurs et de nos idées. Mais voilà que ce spectre à nouveau hante bien au-delà de l'Europe. Il se pourrait bien que la révolution soit à nouveau une idée neuve et qu'elle ne soit pas finie, qu'elle ne soit pas terminée et qu'on reprenne la bataille historique de la révolution autour justement des thèmes suggéré par Éric Azan, a commencé par le thème de l'égalité. Parce que s'il y a bien quelque chose qui marque notre temps, aujourd'hui, c'est le creusement des inégalités. Tout le monde les constate, tout le monde, une grande partie, en souffre, et beaucoup s'interrogent sur les conséquences dramatiques des inégalités. On voit ces effets, mais on n'est sans doute pas dans ce domaine au bout de nos peines. Bref, la révolution peut nous donner des idées, nous donner du grain à moudre et peut-être redevenir ce qu'elle fut dans l'esprit de certains et dans l'imagination de certains, une aurore.
La soirée du 14 juillet sur Antenne 2, ça démarre dès 20h30 avec une grande soirée de variété. Charles Aznavour, Véronique Sanson, Bernard Lavillier, Elsa, Enrico Macias, Tana Mouskouri, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Coluche, Robert Hossein, la compagnie créole et Mireille Mathieu qui interprète la Marseillaise sous l'Arc de Triomphe. À 21h30, c'est le super show du bicentenaire par Jean-Paul Goude. Le 14 juillet sur Antenne 2, un spectacle comme vous n'en verrez pas avant 200 ans. Antenne 2, toute la passion du spectacle.
Voilà, c'est ainsi que la Révolution française fut célébré en 1989. Le président François Mitterrand, entre autres, avait invité le maréchal Mobutu et Madame Thatcher à cette célébration. C'était il y a 23 ans. C'était il y a 23 ans. Le temps passe et il se pourrait bien que la révolution redevienne, comme je le disais, une idée à débattre et une idée neuve parmi nous.
À nos enfants de la patrie, le jour est arrivé contre toute la tyrannie. L'étendard est levé, entendez-vous mugir, se faire aux soldats. Appliquons la première technique de combat aux armes citoyens. Formez vos bataillons, marchons, marchons, que sont impurs, abreuve nos sillons. Que veut ces ordres d'esclaves, de traits de roi conjurés, pour qui ces ignobles entraves, dès l'OTAN préparé. Français pour vous, à quel outrage de rendre à l'antique son propre esclavage. Toi de Goyeux te bénisse, frais la loi de nos foyers. Toi de phalanges personnelles, dérèserait nos fiers guerriers. Grand Dieu, pas de main enchaînée, les maîtres de nos destinées se sont mis à trembler. Vos proches par ici recevront leur prix. Tous les soldats pour vous combattre à tout prix. S'ils meurent, s'ils tombent, le jeune héros, Weston Peace, la terre en produira de nouveau.
Et Eric, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi t'as voulu qu'on vienne ici?
Parce que c'est un haut lieu du Paris révolutionnaire. On est quasiment place du marché Saint-Honoré. C'est là que Robespierre a prononcé une grande partie de ses plus importants discours.
T'as deux bouquins qui sortent en même temps. Il y a l'invention de Paris qui sort dans un beau livre magnifiquement illustré. On connaissait déjà ce bouquin. Et puis, il y a une histoire de la Révolution française là, qui sort. Ça, c'est La Fabrique. Mais quand on parcourt ton bouquin, on s'aperçoit d'abord, t'as bien raison, qu'on croit savoir, mais qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. On a des mémoires, on a des souvenirs scolaires de l'histoire telle qu'on nous l'a racontée, la Révolution telle qu'on nous l'a racontée. On s'aperçoit de l'extraordinaire richesse de cette époque, la précipitation à quelques heures
cinq
près.
Cinq ans, ça a duré 5 ans cette histoire, voilà. C'est-à-dire le septennat de Sarkozy.
Oui,
hein,
c'est ça.
Et il s'est passé pendant ces 5 ans un nombre phénoménal d'événements qui ont changé la face du monde occidental.
Comment ça commence cette histoire de révolution?
Comment ça commence? Avant l'été 89, ça commence par des émeutes en province. Comme probablement va commencer la prochaine insurrection.
Il y a quand même des... Oui, il y a des problèmes de dette.
Oui.
Il y a des problèmes
crise,
de crise.
Le trésor est à sec.
Ouais.
Le trésor est à sec. Il y a une dette formidable. Parce qu'il n'y avait pas de budget. Le roi, il dépensait comme il voulait. Et puis après, bah, il fallait trouver l'argent pour combler le trou. Alors ça marchait à peu près, tant qu'il n'y avait pas la guerre. La France, comme chacun sait, a aidé l'insurrection, la guerre d'indépendance américaine. Ouais. Et ça a coûté énormément d'argent. Et c'est ça qui a fait le trou et la dette. Donc, il n'y avait plus d'argent, on ne pouvait plus emprunter à des taux formidables, c'était comme aujourd'hui, pareil. Et là, le roi a été obligé, le roi et le gouvernement, le roi et le contrôleur général, ont été obligés de convoquer les états généraux.
Les états généraux, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire le rassemblement du peuple en trois parties, le tiers-état, le clergé et la noblesse.
Le tiers-état, c'était 95%.
98%.
Voilà, c'est un peu les Occupy d'aujourd'hui, voilà, voilà. Qui nous disent il y a 1% et 99% voilà. Qui sont de l'autre côté. Oui. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? D'abord, ce tiers-état, alors comment on peut décomposer? On voit très bien la noblesse, le clergé. Ce tiers-état, ce n'était pas homogène, tout ça, tu viens de parler. Il ne faut pas jamais perdre de vue que la France était essentiellement rurale. Mais ça se décompose comment, ce tiers-état, sociologiquement?
Sociologiquement, une grande majorité de paysans. Alors, quand on dit paysans, là encore, c'est pas homogène. Hein. Il y avait des propriétaires, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient eu accès à la propriété au cours du XVIIIe siècle. On peut dire que la moitié des terres françaises étaient aux mains de particuliers, c'est-à-dire de gens, de paysans. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient riches. Hein. Souvent, ils avaient juste de quoi vivre. Hein. Donc, il y avait les paysans... propriétaires, les métayers et les fermiers, et puis ceux qui n'avaient rien. Les métayers et les fermiers, ils avaient encore un lopin de terre dont ils payaient le loyer. Puis ceux qui n'avaient rien du tout, qui étaient des saisonniers.
Des laboureurs.
Mais... Des laboureurs, des... et puis des errants. Hein, des gens qui allaient sur les routes, des gens du voyage, quoi,
oui,
l'époque.
Oui.
Donc ça faisait une population qui était très diverse, et très diverse aussi selon les régions.
Et puis il faut imaginer une France qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, qui était effectivement très, très découpée en autant de petits royaumes.
Les provinces, oui. Les provinces qui étaient gouvernées de façon très, très serrée par le système des intendants. Les intendants, qui est une formation qui datait de Louis XIV, de Colbert, les intendants avaient tout pouvoir, comme un préfet de région aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
C'était un système très, 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 très serré, très sérieux, dont Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, fait le grand éloge. Seulement, ce qui est rigolo, si je puis dire, enfin oui, je trouve ça assez drôle, c'est que quand la nouvelle de la prise de la Bastille s'est répandue dans le pays, ce système s'est littéralement évaporé. Pacifiquement. Les intendants, les sous-intendants qui étaient l'équivalent des préfets, et tout ce système extrêmement hiérarchisé, extrêmement cadenassé, eh ben, ils ont laissé leurs petites affaires là, ils ont mis la clé sur la porte et ils sont partis.
Ce qui te fait conclure que si que ça pourrait se reproduire aujourd'hui, que les préfets diraient bon, ben voilà.
Voilà. On est désolé, on s'en va.
Garde à vous, peloton ! Mes camarades ! Notre collègue Garnier, délégué par nous au comité central à l'hôtel de ville, nous fait dire qu'à l'heure actuelle, nos frères de la section du théâtre français s'apprêtent à donner le signal du départ. Ce signal, c'est un coup de canon qu'ils doivent tirer du pont Saint-Michel. Aussitôt, les cloches de toutes les églises patriotes de Paris sonneront le tocsin et appelleront aux armes les citoyens des sections révolutionnaires et les fédérés. Réunis aux forces du théâtre français, du faubourg Saint-Marceau et les fédérés bretons, nous irons prendre nos positions devant la porte du château. Avant d'attaquer, nous attendrons que le brave Santerre nous ait apporté l'appoint des sections du faubourg Saint-Antoine, de Montreuil et du roi de Sicile. Nous devons faire tout pour éviter une action sanglante. L'action pacifique est pour un révolutionnaire une arme plus efficace qu'un fusil.
Si on dit révolution française, pour tout le monde, dans le monde entier, c'est évidemment la prise de la Bastille. Évidemment, tu décris cette prise de la Bastille qui n'a pas été ce qu'on dit. Alors, on dit toujours, oui, mais il n'y avait personne à la Bastille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux évoquer cette prise de la Bastille?
Il y avait plus beaucoup de prisonniers, c'est vrai. Enfin, il y a eu quand même plusieurs centaines de morts à l'assaut de la Bastille. D'abord, l'idée d'aller à la Bastille, c'était une idée d'abattre un symbole. Puisque la Bastille, d'abord, c'est pas au centre de Paris, comme chacun sait, hein, c'est en périphérie. Ça ne menaçait véritablement pas grand monde. Et ça contenait plus beaucoup de monde, mais c'était un symbole.
Voilà le Chablis. La Bastille était un symbole, le Chablis aussi.
Alors, la prise de la Bastille en est venue à symboliser à elle toute seule la Révolution, puisque c'est la fête nationale, 14 juillet, et c'est connu dans le monde entier. C'est un événement très important, évidemment. Hein. Mais au fond, c'est un épisode particulièrement lumineux dans la grande trajectoire insurrectionnelle de la phase ascendante de la Révolution. Il y a la prise de la Bastille, 14 juillet 89, la prise des Tuileries, 10 août 92, fin de la royauté, et les 31 mai, 2 juin 93, fin de la domination de la Gironde, c'est-à-dire des modérés sur la Convention. C'est-à-dire, là commence véritablement la Révolution montagnarde, hein, qui va durer un an. Donc, on peut dire que dans la Révolution, il y a trois révolutions.
Moi, j'ai un schéma de la Révolution française qui est le peuple se révolte. Tu évoquais le tiers-État. Le peuple est affamé. Le peuple se révolte. On a déjà crié. Les paysans vont se lever, se battre. Et puis ça engendrera la bourgeoisie. La Révolution française engendrera la bourgeoisie. Et donc le peuple sera spolié de son élan révolutionnaire. Est-ce que cette lecture-là est la tienne ?
Que le peuple ait été spolié de sa victoire, oui. On peut dire que Thermidor est la défaite du peuple et que ce qui va suivre, ce qui va se passer dans les années 94-95 et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, c'est une sorte de restauration de l'ordre aux dépens du mouvement et des aspirations du peuple. C'est clair. Maintenant, il faut se méfier de la notion de bourgeoisie appliquée à cette époque. Parce que on peut parler de bourgeoisie, mais à condition de ne pas penser à la bourgeoisie du 19e siècle. Oh. Pas penser à M. Prudhomme de sous Louis-Philippe. Parce que cette bourgeoisie-là, qui est au fond la bourgeoisie actuelle, son émergence est contemporaine de la révolution industrielle. Elle est contemporaine de l'émergence aussi du prolétariat. Si on dit bourgeoisie, on pense prolétariat. Hein, on pense par son contraire. Alors si on plaque le concept de bourgeoisie du 19e siècle sur la Révolution française, on fait un anachronisme dangereux qui a été largement fait. Hein. On dit la bourgeoisie sous la Révolution a détruit la féodalité et a construit. Je crois que c'est pas vrai.
Moi, j'ai un schéma de la Révolution française qui est le peuple se révolte. Tu évoquais le tiers-État. Le peuple est affamé. Le peuple se révolte. On a déjà crié. Les paysans vont se lever, se battre. Et puis ça engendrera la bourgeoisie. La Révolution française engendrera la bourgeoisie. Et donc le peuple sera spolié de son élan révolutionnaire. Est-ce que cette lecture-là est la tienne ?
Que le peuple ait été spolié de sa victoire, oui. On peut dire que Thermidor est la défaite du peuple et que ce qui va suivre, ce qui va se passer dans les années 94-95 et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, c'est une sorte de restauration de l'ordre aux dépens du mouvement et des aspirations du peuple. C'est clair. Maintenant, il faut se méfier de la notion de bourgeoisie appliquée à cette époque. Parce que on peut parler de bourgeoisie, mais à condition de ne pas penser à la bourgeoisie du 19e siècle. Oh. Pas penser à M. Prudhomme de sous Louis-Philippe. Parce que cette bourgeoisie-là, qui est au fond la bourgeoisie actuelle, son émergence est contemporaine de la révolution industrielle. Elle est contemporaine de l'émergence aussi du prolétariat. Si on dit bourgeoisie, on pense prolétariat. Hein, on pense par son contraire. Alors si on plaque le concept de bourgeoisie du 19e siècle sur la Révolution française, on fait un anachronisme dangereux qui a été largement fait. Hein. On dit la bourgeoisie sous la Révolution a détruit la féodalité et a construit. Je crois que c'est pas vrai.
Une autre image qu'on a de la Révolution française, c'est tout va bien, le débat est vif, il y a des moments très forts, et puis il y a la terreur. Et ça, on dit ah, voilà, ça c'est inadmissible la terreur. On guillotine les gens, on massacre, on fusille. On opprime. Est-ce que la révolution, c'est la terreur ?
Qu'il se soit passé beaucoup de choses épouvantables entre l'été 93 et l'été 94, c'est indiscutable. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus et dire non, c'est pas grave. Alors, mais là-dessus, je crois qu'il y a deux choses à dire. Enfin, il y en a bien plus que deux. Mais voilà, deux choses que j'ai envie de dire. La première, c'est que la terreur n'a jamais été revendiquée comme un mode de gouvernement. Quand Robespierre et Saint-Just parlent de la terreur, ils en parlent toujours de façon négative. À aucun moment, la terreur n'a été instaurée en mode de gouvernement. La deuxième chose, c'est que la terreur s'explique par la guerre. Guerre à l'extérieur et guerre civile énorme. Est-ce que vous savez combien de personnes ont été déférées devant le tribunal révolutionnaire parisien. 4000 personnes ont été déférées devant le tribunal révolutionnaire, sur lesquelles 2500 ont été guillotinées et 1500 ont été acquittées. C'est énorme, hein, 2500 personnes guillotinées, hein, si on les met bout à bout, ça fait de la longueur. Mais par rapport à l'énorme masse, aux dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées au moment de la guerre civile, par la guerre civile, au cours de la guerre civile, en Vendée, mais pas seulement en Vendée, siège de Lyon, les massacres dans toute la vallée du Rhône, ça c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées des deux côtés au cours de la guerre civile. Donc, la terreur, le côté le plus terrible de la terreur, c'est la guerre civile et aussi... La guerre explique aussi la terreur, parce que cette guerre, il fallait absolument la gagner. Robespierre était opposé à la guerre. Mais une fois qu'elle était déclarée, il fallait la gagner. Donc il fallait absolument faire régner l'ordre, et c'est ça qui a entraîné l'un après l'autre l'élimination des factions qui étaient opposées au comité de salut public. La nécessité de l'effort de guerre et d'une concentration et d'une efficacité de l'effort de guerre. Parce que le mouvement populaire, qui était formidable, mais c'était évidemment un facteur de désordre. Et pour les gens des comités de gouvernement, on ne pouvait pas gagner la guerre avec le désordre. Et c'est pour ça que le mouvement populaire, si vivant, si magnifique, a été mis au pas. Et c'est une des raisons de la terreur.
Ils nous ont dit tuer les aristocrates, ce sont des loups. Nous avons pendu les aristocrates.
Je me demande si les gens qui réfléchissaient à modifier l'ordre des choses au début de l'année 1789 n'avaient pas eux aussi le sentiment d'avoir devant eux une muraille fortifiée imprenable.
Ah.
Je pense que si. Je pense que ces gens-là étaient, comme nous, les bras ballants devant cette montagne énorme qu'était la monarchie absolue. Avec les régiments, avec les gardes françaises, avec cet arsenal extraordinaire. Je pense que ils se disaient « Oh, on n'y arrivera jamais. Hein. Ces gens-là sont trop forts. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette armée de l'ordre s'est défaite. Les gardes françaises, qui étaient le régiment chargé de maintenir l'ordre dans Paris. Les gardes françaises, le 13-14 juillet, sont passées du côté de l'émeute. Et c'est les canons des gardes françaises qui ont brisé les chaînes des ponts-levis de la Bastille. S'il n'y avait pas eu les gardes françaises, c'est pas sûr que l'insurrection populaire aurait pu prendre la Bastille. Mais les gardes françaises, 3000, 4000 hommes, avec leurs officiers et leurs canons, sont passés du côté de l'émeute. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les révolutions victorieuses. Les forces de l'ordre passent du côté de l'émeute.
Mais tu viens de dire les révolutions victorieuses. Tu considères que la révolution française est une révolution victorieuse ?
On pourrait faire une espèce de diagramme de la Révolution française. Elle a monté tout le long de l'été 89. Là, c'est une pente ascendante formidable. Quand on pense que, on parlait tout à l'heure de cette montagne devant laquelle se trouvaient les gens en disant on n'y arrivera jamais. Et en octobre 89, les femmes de Paris vont chercher le roi à Versailles. Elles prennent l'hôtel de ville, les femmes de Paris. Elles sortent les canons et les piques et les fusils et elles vont chercher le roi à Versailles. Et elle le ramène. Et elle le ramène. C'est inimaginable. Une chose pareille, aujourd'hui, tout le monde le sait, le roi, la reine et le petit Mitron. Enfin, mais quand on y pense, c'est quand même invraisemblable. Donc, cette phase ascendante de la Révolution est ensuite suivie d'une longue période de déclin, de reflux révolutionnaire, qui va, au fond, je dirais, pour dire les choses simplement, de l'automne 89 jusqu'à l'été 92. Là, les possédants les notables menacés réagissent et cherchent à revenir en arrière. Déclenchent la guerre pour ça, puisque la guerre était vraiment déclenchée comme un moyen de retour à l'ordre, jusqu'au moment où, en août 92, le peuple de Paris, il a dit, le peuple de Paris et les fédérés marseillais, parce que le rôle des fédérés marseillais dans la prise des Tuileries en août 92 était déterminant, c'était le fer de lance, les fédérés marseillais, qui était monté de Marseille en chantant le chant de guerre de l'armée du Rhin, hein, qui est devenue la Marseillaise, hein, c'est la Marseillaise, hein, c'est pas la Bordelaise ni la Lyonnaise, hein, c'est la Marseillaise. Donc les fédérés marseillais et le peuple de Paris prennent les Tuileries, le roi est chassé, c'est la proclamation de la République. Et quand on pense à ce moment formidable, disons, des 10 derniers jours du mois de septembre 92, fin de la royauté, proclamation de la République, réunion de la Convention, victoire de Valmy. Extraordinaire. Dans quel an ? Quand s'est-il passé en France, en 10 jours, des événements aussi extraordinaires ?
On est avec Éric Hazan, passionnant et passionné, qui vient de publier une histoire de la Révolution française, donc aux éditions de La Fabrique. On est dans ce bistrot hanté encore, pour ceux qui ont l'oreille très fine, par la voix de Robespierre. Et pour comprendre pourquoi certains historiens libéraux ou néolibéraux ont essayé de faire oublier la Révolution française. Voilà quelques lignes prononcées à la Convention par Robespierre. Quel est le premier objet de la société ? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits ? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. C'est pour vivre d'abord que l'on a des propriétés. Il n'est pas vrai que la propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic, c'est un brigandage et un fratricide. On peut trouver dans les discours et ce qu'a écrit et dit Robespierre pour le bonheur et pour la liberté, les raisons pour lesquelles il a été tantôt loué, adulé et qu'il a inspiré évidemment des millions, des milliards presque d'êtres humains sur cette planète, mais aussi pourquoi il a été combattu. On continue avec Éric Hazan. Quelles étaient les références ? On a évoqué les philosophes des Lumières, tu dis que les révolutionnaires étaient imprégnés des idées des Lumières, avec des interprétations qui étaient les leurs, mais est-ce qu'ils avaient des... Nous, aujourd'hui, depuis cette Révolution française, la Révolution française a été la référence à toutes les autres dans le monde, y compris en URSS, en Russie, en Chine, en Amérique latine, partout, tout le monde s'est inspiré, en Afrique, partout, tout le monde s'est inspiré de cette Révolution française. Mais la Révolution française s'inspirait de quoi, elle ?
L'Antiquité romaine. Ils étaient imbus d'Antiquité romaine, ils étaient nourris d'Antiquité romaine. Et d'ailleurs, une chose qui me paraît évidente et peut-être que je n'ai pas lu ailleurs, c'est que quand Robespierre et Saint-Just parlent de la vertu, aujourd'hui ça paraît ridicule, hein, quand tu parles à la jeunesse de la vertu, quand tu dis, voilà, les révolutionnaires disaient que le fondement, la base de tout, c'était la vertu. La vertu, c'est la virtus. C'est la virtus romaine, c'est-à-dire la force et le courage. Et l'inverse de la vertu de Robespierre et de Saint-Just, c'est pas la débauche, Hein, c'est l'opportunisme et la lâcheté. Si on s'en tient au personnage Robespierre, il a été tellement vilipendé que aujourd'hui, on a même presque du mal à lui rendre justice, parce que les Thermidoriens, ceux qui l'ont abattu, ils avaient tout intérêt, non seulement ils avaient tout intérêt, mais c'était vital pour eux de le salir. Parce que c'était un personnage d'une popularité extrême. La veille du jour où il a été abattu, c'était encore un personnage d'une popularité extrême. Donc quand on abat un personnage d'une popularité extrême dans le peuple, il faut expliquer que les gens se sont trompés, qu'il n'était pas si bien que ça, que c'était même un tyran sanglant, et que si on l'avait pas abattu, il aurait coupé les têtes de tout le monde. Alors ça, cette légende noire de Robespierre s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui.
Les Thermidoriens sont donc ceux qui annulent la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire, les Thermidoriens?
Alors c'est compliqué, parce que c'est pas un groupe homogène. Il y a même des Thermidoriens de gauche. Il y a des gens qui en avaient assez de l'influence personnelle de Robespierre et qui étaient des gens de gauche. Alors de l'autre côté, il y avait toute une bande de réactionnaires, dont Tallien, dont Barras, dont Fréron, qui vont être des Thermidoriens de proie, comme dit Mathieu, les Thermidoriens de droite. Mais c'est eux qui vont gagner, parce que les Thermidoriens de gauche, c'est des pigeons. Ils croient qu'ils vont pouvoir continuer la révolution, pas du tout.
Il y a un autre terme, tu dis finalement ce que la Révolution française inaugure, c'est la question de l'égalité. Tu dis là, les révolutionnaires ouvrent un chantier qui est toujours en effervescence, qui est toujours en question, et là, surtout en ce moment, enfin avec ces 30 dernières années de néolibéralisme et d'inégalitarisme militant que nous subissons.
Théorisé et militant.
Mais il y a aussi la question de la liberté. Parce que la question de la liberté, on croit que c'est simplement la liberté de circuler. Et c'est formidable, c'est vrai. C'est un aspect de la liberté. Mais il y a aussi la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la liberté du libre-échange. Et il y a la question de la propriété qui est liée à cette question de liberté. Ça, c'est des histoires et des affaires qui parcourent tous ces débats et toute cette époque.
C'est une notion tout à fait fondamentale, celle de la liberté de posséder, d'entreprendre. Et là-dessus, on peut dire qu'il y a eu une énorme évolution dans la pensée des révolutionnaires eux-mêmes. Entre 89 et 93. En 89, la Déclaration des droits de l'homme introduit la propriété dans les droits naturels. La propriété est un droit naturel. Or, le droit naturel, c'est le fondement même de cette Déclaration des droits. Ce qui est naturel, les droits naturels, ce sont les droits supérieurs. Hein, c'est les droits de la nature. Donc, c'est pas discutable. La propriété fait partie des droits naturels. En 93, Robespierre fait sa propre déclaration des droits, son propre projet de déclaration des droits, qui ne sera d'ailleurs pas repris. Mais la déclaration des droits de Robespierre, il dit, la propriété n'est pas un droit naturel. La propriété est une institution sociale qui doit céder le pas devant le droit naturel fondamental, qui est le droit à l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes négociant en grains, vous ne pouvez pas dire « ce sont mes grains, c'est ma propriété » si en disant ça, vous allez spéculer et affamer le peuple. Parce que c'était ça finalement le truc fondamental. C'est est-ce que les gens ont le droit, au nom du droit de propriété, d'affamer les autres? Eh bien non.
Mais ça c'est une question d'actualité, c'est aujourd'hui.
Complètement.
L'auditeur qui arrive, qui vient d'ouvrir son transistor et qui entend ce que tu es en train de dire, pense qu'on est en train de parler d'aujourd'hui.
Mais oui. Évidemment que c'est un problème fondamental. Pour les gens, les notables qui ont été élus dans les assemblées successives, que ce soit la constituante, la législative ou la convention, c'était des notables nourris par la physiocratie, nourris par l'idée que le libre-échange était une conquête révolutionnaire. Donc Robespierre, quand il leur dit la propriété, attention, c'est pas un droit naturel, et c'est un truc qui peut contrevenir à l'existence, au droit à l'existence, Donc il était très en avance.
Voilà, ça fait partie, si on parle de l'égalité, si on parle de la liberté, on parle d'aujourd'hui, on parle de tous les temps, on parle des grandes vraies questions politiques, et le fait qu'on en parle nous fait penser qu'on ne vit pas une véritable démocratie aujourd'hui dans des pays comme le nôtre en France. On croit vivre la démocratie et sans doute que on n'est pas dans un pays pour autant totalitaire, mais on a une démocratie extrêmement limitée au jour où nous votons, c'est-à-dire tous les 4 ans ou les 5 ans ou les 3 ans.
Une démocratie purement formelle.
Mais si c'était pas le cas, si on avait vraiment une démocratie participative quotidienne, on se nourrirait beaucoup plus de toutes ces idées, de tout ce que la Révolution française a apporté, a soulevé comme problème, a évoqué comme problème, a tenté de régler. Je veux dire par là que si on s'intéresse moins aujourd'hui à la Révolution française, c'est qu'on ne vit pas dans une véritable démocratie. Si on vivait dans une démocratie, la Révolution nourrirait la démocratie.
Et on n'enseignerait pas aux enfants la Révolution de la manière dont on la leur enseigne. Si on regarde les manuels scolaires, c'est affreux. La Révolution se résume purement et simplement à la terreur.
Ah voilà.
C'est-à-dire que ça reprend de façon tout à fait plate les idées de ceux qui pensent que la Révolution est un phénomène regrettable qui aurait parfaitement pu être évité, qu'on aurait pu faire l'économie de la Révolution et qu'on serait arrivé au même résultat en évitant tout ce sang versé.
Et ce qui témoigne de ça, c'est la façon dont la Révolution a été célébrée en France en 1989. C'est pas si vieux, beaucoup des auditeurs s'en souviennent. C'était un petit défilé folklorique organisé par un décorateur des galeries Lafayette, à peu près, avec les intellectuels de l'époque, les historiens de l'époque, qui disaient l'histoire est terminée, quoi.
Oui, ils disaient oui, 89 à la rigueur. Mais alors après, c'est le dérapage dans le sang. C'est-à-dire que toute la grandeur de ce qu'a fait la Convention, de ce qu'a fait le Comité de salut public, de ce qu'a fait Robespierre dans l'an 2, tout ça a été gommé et rejeté au Musée des Horreurs. Évidemment, c'était des idées très dangereuses. Et on conçoit très bien que le mitterrandisme finissant n'ait pas eu envie de les voir réapparaître sur le devant de la scène.
C'est ça. Et si on veut aujourd'hui reprendre, continuer ces chantiers, le chantier de la propriété, le chantier de l'égalité, le chantier de la libre entreprise, du libre-échange, etc., c'est-à-dire les sujets les plus brûlants d'aujourd'hui, et beaucoup d'autres bien sûr, la crise, la dette, la violence en politique, etc., il faut s'intéresser à la Révolution française, et il faut lire le bouquin d'Éric Hazan, Une histoire de la Révolution française, ça sort à la Fabrique ces jours-ci.
Tu vois où il y a cette petite canonnade?
Oui.
Ils cherchent à gagner la route de Châlons.
Mais s'ils la prennent, la route de Châlons,
alors, ils continueront sur Paris.
Ce sera la fin de notre révolution. Et notre pauvre Baumier, il sera mort pour rien.
Non, pas pour rien. Car même si aujourd'hui les canons des Prussiens nous écrasent, ils n'arriveront pas à écraser ce que nous avons apporté au monde. Vois-tu, avant nous, les peuples étaient en face de la liberté, comme un amoureux devant une femme à qui il aurait été interdit même d'avancer la parole. Et brusquement, grâce à nous, voilà que notre homme peut enfin tenir sa bien-aimée dans ses bras. Bien sûr, elle n'est pas encore sa maîtresse. Il devra se donner du mal pour terminer sa conquête. Mais maintenant qu'ils se connaissent, même si on les sépare, un jour ou l'autre, ils se retrouveront. Javel, qu'est-ce que tu as me dit, toi?
Voilà, merci à tous. Une histoire de la Révolution française. Éric Hazan, c'est à la Fabrique. Toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org. C'est Pierrick Monsigny et Elise Christophe qui étaient à la technique aujourd'hui. C'est Lucie Acoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Buteau. Montage Marion Dupas qui attend également vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Unique, essentiel, irremplaçable. Grâce à toi, grâce à lui, je revis.
Le sang est un produit rare et précieux. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. À l'approche de Noël, donnez votre sang.
C'était un message de l'établissement français du sang, www.dondusang.net.
Alors Gabriel, t'as pris une décision pour ton futur job ?
Ouais, j'ai choisi une entreprise sociale et solidaire.
Enfin, tu veux plus être ingénieur ?
Bah...
Et créer le smartphone du prochain millénaire ?
Bah si, justement.
On n'imagine pas tous les emplois qui composent l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi le gouvernement veut lui donner aujourd'hui tous les moyens de réussir et créer ainsi les emplois de demain. Plus d'informations sur le site économie-sociale-solidaire.gouv.fr.
Économie sociale et solidaire. L'État se mobilise pour une économie qui bénéficie à tous.
Ceci est un message du ministère délégué chargé de l'économie sociale et solidaire.
Radio France, partenaire de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées du 12 au 18 novembre. Il y a des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines. Et puis, il y a une semaine formidable, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. Rendez-vous du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Renseignements radiofrance.fr.
SNCF, aujourd'hui, offrez-vous un petit plaisir ?
Un éclair au chocolat, c'est vraiment bon. Mais est-ce bien raisonnable ? Les bonnes résolutions avant tout. Mais partir en un éclair, et pas cher, ça c'est un petit plaisir autorisé. Je dirais même plus, c'est cadeau.
En novembre, laissez-vous tenter. 500 000 billets TGV et Intercités à prix cadeau sont en vente jusqu'au 27 novembre pour des voyages du 16 novembre au 18 décembre. Offre soumise à condition. SNCF.
Et voici l'ultime question de ce jeu. Quelles sont les activités accessibles avec des chèques vacances ? Top !
Un week-end en gîte.
Exact.
Les colonies de vacances.
Exact.
Les billets d'avion, de train.
Oui.
Un stage de voile, de tennis.
Bonne réponse.
Une traversée en ferry.
Oui.
Une sortie aux eaux.
Exact.
La piscine.
Oui, très bonne réponse, Didier.
Les chèques vacances, c'est mille et une façons d'augmenter votre pouvoir d'évasion. Demandez-les à votre employeur ou à votre comité d'entreprise. ANCV. Parce que les vacances, c'est essentiel.
16h, passé de quelques secondes sur Inter. On ne se voit pas demain, parce que demain, nous sommes en grève à l'appel de la Confédération européenne des syndicats contre l'austérité et pour l'emploi et la solidarité. Et nous serons à la manif à partir de 14h devant la place du 8 juin, au métro Montparnasse, devant la gare Montparnasse. Donc on se retrouve après-demain. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Nouveau clash à l'Assemblée nationale cet après-midi. La séance a dû être interrompue, répondant à une question d'actualité du député UMP Éric Ciotti sur les chiffres de la délinquance en hausse publiés ce matin dans le Figaro. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a accusé la droite d'être responsable du retour du terrorisme en France. Souad, la sœur de Mohamed Merah, annonce cet après-midi via son avocat qu'elle va porter plainte contre M6. Dans le reportage diffusé dimanche, filmé à son insu, elle disait être fière de ce qu'avait fait son frère, le tueur au scooter. Les paroles ont été prononcées lors d'une conversation privée avec son frère Abdel Ghani, explique Christian Etelin, l'avocat de Souad Merah. On le saura le 18 décembre prochain si Francis Holm doit ou non comparaître de nouveau devant une cour d'assises. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Metz a décidé aujourd'hui d'examiner à cette date la demande de renvoi du tueur en série pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986. Les actes de violence dans les collèges et lycées ont légèrement progressé en France entre 2011 et 2012. Selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale mise en ligne aujourd'hui, la hausse est significative pour les violences physiques. On a recensé l'an dernier 13,6 incidents pour 1000 élèves contre 12,6 l'année dernière. C'est pour la grande majorité des cas le fait de garçons. La France, par la voix de Laurent Fabius, aujourd'hui appelle à reconnaître la nouvelle coalition de l'opposition syrienne. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé depuis le Caire, où sont réunies l'Union européenne et la Ligue arabe. L'opposition, dit-il, a fait un pas énorme. Le rôle de la France est d'en tirer les conséquences et qu'elle soit à l'initiative. Concernant la demande d'armes formulée par la coalition, en revanche, le Quai d'Orsay répond aujourd'hui que la France est liée à Bruxelles par l'embargo sur les livraisons d'armes. L'Union européenne a la possibilité de le lever, mais pour l'instant, aucune discussion n'est prévue sur le sujet. La première compagnie aérienne allemande Lufthansa annonce aujourd'hui avoir trouvé un accord salarial avec les représentants de ses 18 000 hôtesses et stewards. En septembre dernier, ils avaient fait grève pour obtenir une réévaluation de leur rémunération. L'accord en question prévoit une hausse en moyenne de 4,6% de leur salaire. Nouveau plan social en perspective, l'entreprise de fabrication de cloisons Clestra, qui emploie près de 500 personnes à Strasbourg, a été placée aujourd'hui en redressement judiciaire. Les émissions de dioxyde de carbone dans le monde ont atteint un nouveau record l'an dernier, 34 milliards de tonnes rejetées dans l'atmosphère selon le Forum économique international pour les énergies renouvelables. Enfin, on l'apprend à l'instant, la baisse des ressources imposées à France Télévisions dans le projet de budget 2013 entraînera probablement un plan de départ volontaire, qui pourrait toucher jusqu'à 500 personnes dans les années qui viennent. C'est ce qu'indique aujourd'hui une source proche de la direction. Parmi les hypothèses évoquées, il est probable que l'on doive aller plus loin que ce que prévoit le contrat d'objectif et de moyens, dit encore cette même source proche de la direction de France Télévisions. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Cette semaine dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Lilywood and the Prick. Baden Baden. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Quand j'entends ça...
Mais c'est pas vrai. Ils vont continuer encore longtemps?
Comment?
Oui, non.
On peut dire des choses pareilles.
Oui.
Oui, madame.
Non.
Et vous, vous en pensez quoi?
France Inter, la voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, un joli disque pour commencer, mais les autres le sont aussi, mais celui-là est tout récent. Donc de la flûte à bec, en grande partie, Maurice Steger, qui joue, qui dirige l'orchestre aussi, nous propose des œuvres venant de Naples ou de la région. C'est vrai qu'on parle souvent de Venise, on en a encore parlé ici même hier, mais à Naples, il s'en est passé beaucoup au XVIIIe siècle notamment, et aussi bien dans le domaine de l'opéra que dans le domaine de la musique instrumentale. Il y a eu floraison, Venise menacée par les eaux, Naples par le volcan. Néanmoins, l'activité musicale a toujours fleuri dans ces deux belles cités. Voici le grave et puis le presto de la première symphonie en la majeure de Scarlatti, Domenico Scarlatti, dont on pense généralement qu'il n'a écrit que des sonates pour le clavecin. Ben c'est faux. We'll be right back.
Le grave et puis le presto de la première Symphonia, symphonie, on peut dire en la majeure de Domenico Scarlatti, interprété par Maurice Steger et ses amis. Et voici maintenant, parce que c'est quand même le sujet du disque, une sonate où on entend bien la flûte à bec, c'est l'instrument du meneur donc, et l'œuvre a été écrite par Francesco Mancini, qui a été un fidèle assistant de Domenico Scarlatti. Et à l'époque, on considérait que la flûte, d'ailleurs Mozart l'a dit, n'était pas un instrument fréquentable, on disait que c'était pas juste